France Culture.
Le journal, Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Malgré les révélations, l'omerta sur les violences à la peau dure dans le sport, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, 6 athlètes sur 10 en sont victimes, d'après une large étude publiée cette semaine. Quand les ingérences russes tentent d'éclabousser Emmanuel Macron sur l'affaire Epstein, une opération de désinformation a tenté de faire croire à une implication du chef de l'État dans le dossier du criminel sexuel américain. Des ingérences russes qui sont à l'origine de vols et de sabotages en Allemagne, avec un incident par jour, recensé l'année dernière par les autorités allemandes. Nous reviendrons aussi sur les pourparlers entre Américains et Iraniens à Oman, à l'issue desquels les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions pétrolières contre la République islamique. Nous parlerons des impayés responsables d'une faillite d'entreprise sur 4 en France, de la France insoumise aussi qui dépose un recours devant le Conseil d'État pour contester son classement en partie d'extrême gauche par le ministre de l'Intérieur. Et puis enfin, nous partirons à la frontière espagnole à la fin de ce journal, là où se trouvent des trafiquants de glyphosate au business juteux. Révélation de la cellule investigation de Radio France. Elle débute dans 2 heures, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver en Italie. Une cérémonie qui aura lieu simultanément sur 4 sites différents. 2900 athlètes en provenance de 92 pays participent aux épreuves pendant 2 semaines, dont 161 Français. Et combien parmi eux ont-ils subi des violences? Une étude inédite en France révèle aujourd'hui l'ampleur des violences subies par les athlètes de haut niveau, menées conjointement par des chercheurs de l'Université de Montpellier et l'Université Claude Bernard de Lyon. Elle démontre que 6 athlètes sur 10 sont victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles dans le cadre de leur pratique sportive. Et cette prévalence est encore plus forte pour les athlètes de haut niveau, 94% d'entre eux en sont victimes, malgré la mise en place de numéros d'appel et de campagnes de communication. Cécile de Carvastouy.
Cellules signal, dispositifs de prévention, accompagnement des victimes, affichage dans toutes les salles de sport. Depuis 2019, l'État assure que la lutte contre les violences dans le sport est sa priorité. Et pourtant, sur le millier de questionnaires épluchés dans cette étude, les sportifs sont unanimes. Ils sont massivement victimes de violences qui perdurent. Violences physiques, particulièrement les hommes pratiquant des sports collectifs, violences psychologiques, violences sexuelles, surtout de la part de leurs pairs, mais aussi de leurs entraîneurs et bien sûr de leurs parents. Comme si la violence devait être constitutive du sport, regrette Grégoire Bosselu, enseignant-chercheur, habilité à diriger des recherches en psychologie sociale à l'Université de Montpellier.
Malheureusement, il faut parfois aller autour des terrains pour entendre les parents hurler, les entraîneurs hurler. On pense que hurler sur un gamin, ça va lui permettre d'être bon. La question, elle est combien d'enfants arrêtent la pratique sportive à cause de ça, pour pas se faire hurler dessus, pour pas aller dans des douches où il se passe des choses qui sont pas toujours très acceptables. On est dans une croyance que la violence permet une meilleure performance. Mais en fait, toutes les études montrent que c'est l'inverse. Et j'aurais pu faire une étude juste sur les réponses des présidents de club à qui j'ai envoyé le mail. Du genre, moi quand j'ai un mec qui est violent, qui lui envoie le plus costaud, qui lui casse la gueule, il y a toute une éducation à faire autour du sport pour que ces comportements cessent.
Car sur les 22 000 questionnaires envoyés aux pratiquants, seuls 10% ont répondu. Preuve, disent les chercheurs, que l'omerta sur ces violences continue.
Cécile de Carvastouy. L'affaire Epstein n'en finit plus d'éclabousser les personnalités politiques de la planète. Alors que les appels à la démission de Jack Lang se multiplient, le nom du président de l'Institut du monde arabe étant cité à plus de 700 reprises dans les millions de documents liés au criminel sexuel publiés en fin de semaine dernière par la justice américaine, l'ancien ministre socialiste de la culture est convoqué dimanche par le Quai d'Orsay pour s'expliquer sur ses liens passés avec Jeffrey Epstein. Mais cette affaire tentaculaire fait aussi l'objet de désinformation, alerte aujourd'hui Viginum. D'après le service français chargé de lutter contre les ingérences étrangères en ligne, un réseau russe a tenté de faire croire, mercredi, à l'implication du chef de l'État Emmanuel Macron. Simon Soubieux.
Dans cette masse de documents, le nom d'Emmanuel Macron apparaît bien. On a compté, il apparaît plus de 200 fois. Mais attention, les documents ne fournissent pas la preuve d'un contact entre les deux hommes. Le nom du président apparaît principalement parce que d'autres personnes parlent de lui avec l'homme d'affaires américain. D'ailleurs, hier, l'entourage du président de la République affirmait qu'il n'y avait jamais eu de correspondance ou de rencontre entre Emmanuel Macron et Jeffrey Epstein.
Et pourtant, Simon, selon le gouvernement français, des réseaux russes en ont profité pour diffuser de fausses informations sur le chef de l'État.
Oui, notamment qu'Emmanuel Macron a participé à des soirées avec Jeffrey Epstein dans son appartement parisien en présence de mineurs. La manœuvre est attribuée au réseau russe Storm 1516, selon une source gouvernementale que nous avons contactée ce matin. Un réseau russe spécialisé depuis quelques années dans les campagnes de désinformation en ligne. Cette fois, les auteurs ont créé un faux site internet, usurpant l'identité d'un média, avant d'amplifier la fausse information via une vidéo générée par intelligence artificielle. Cette vidéo a ensuite été relayée massivement et de manière coordonnée ces dernières heures par des comptes déjà suivis par les autorités françaises et gravitant dans l'écosystème russe. Rien que sur le réseau X, la vidéo affirmant qu'Emmanuel Macron a participé à ces soirées a été visionnée 700 000 fois depuis mercredi soir.
Des ingérences russes, c'est ce à quoi est confronté notre voisin allemand également, et pas seulement en ligne. Intrusion, vol et sabotage, l'Office fédéral de la police criminelle a recensé très exactement 321 incidents de ce type l'année dernière. C'est ce que révèle un document confidentiel dont plusieurs médias ont eu connaissance. Et sans surprise, eh bien, ces incidents sont en forte augmentation depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis Berlin, les précisions de notre correspondant Sébastien Baer.
Dans son rapport, le BKA, l'Office fédéral de la police criminelle, classe les incidents en fonction de la cible visée. Installation ferroviaire, armée, centrale électrique, police ou encore aéroport. Selon le document baptisé Zeitenwende, changement d'époque, ce sont les régions de l'ouest de l'Allemagne et la Bavière tout au sud qui sont les plus fréquemment visées. La Rhénanie du Nord-Westphalie, la région de Cologne, concentre à elle seule un incident sur quatre. Il s'agit par exemple d'intrusions dans une centrale électrique ou de blocs de pierre déposés sur une voie ferrée pour faire dérailler un train de marchandises. Le document recense aussi les survols de drones jugés suspects. Là encore, le chiffre est édifiant. 1289 cas ont été signalés aux autorités l'année dernière. En octobre, l'aéroport international de Munich, le deuxième du pays, avait dû fermer à plusieurs reprises après avoir été survolé par des engins non identifiés. La Russie est soupçonnée d'être derrière la plupart de ces attaques, commises le plus souvent par des intermédiaires recrutés sur Internet et engagés contre rémunération. Plusieurs de ces agents, dits jetables, ont été interpellés depuis le début de la guerre en Ukraine, mais la Russie a toujours nié être à l'origine de ces opérations.
Et près de 4 ans donc après le début de l'invasion russe en Ukraine, eh bien la Commission européenne a aujourd'hui proposé un 20e paquet de sanctions économiques contre Moscou. Des sanctions visant le secteur bancaire et l'énergie, avec notamment l'interdiction des services maritimes aux pétroliers russes, comme la maintenance ou le remorquage des navires de sa flotte fantôme qui continue d'exporter le pétrole russe clandestinement. La Russie, dont le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, accuse l'Ukraine aujourd'hui d'avoir tenté d'assassiner un haut responsable militaire à Moscou lors d'une attaque ce matin dans un immeuble résidentiel. Kiev n'a pas pour l'heure réagi à ces accusations. Une atmosphère très positive. C'est ainsi que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qualifie la réunion avec l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, à Oman aujourd'hui. Dans un contexte de forte tension ces dernières semaines, Donald Trump menaçant d'intervention militaire après la répression sanglante de la contestation en Iran, une importante force navale étant toujours déployée dans le golfe arabo-persique. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir.
Les deux parties ont donc convenu de poursuivre les négociations, ça c'est ce que dit l'Iran. Sauf que dans le même temps, Washington impose de nouvelles sanctions pétrolières à l'Iran.
Oui, les États-Unis ne veulent pas relâcher la pression sur Téhéran, ni économiquement, ni militairement, mais ils semblent aussi vouloir donner une chance à la diplomatie. La tenue de ces pourparlers aujourd'hui à Mascate est déjà en soi un succès, c'est le début du processus diplomatique. Les deux délégations américaines et iraniennes n'ont pas échangé directement, puisqu'elles étaient installées dans des salles différentes. C'est le ministre romanais des Affaires étrangères, Badr Boussaïdi, qui faisait la navette pour transmettre les messages. La partie iranienne a fait savoir que les échanges d'aujourd'hui ont porté exclusivement sur la question nucléaire. Les Américains n'ont pas réagi pour le moment. Cette réunion n'est pas destinée à aboutir à un résultat concret. C'était surtout l'occasion pour Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain, et Abbas Araghchi, le patron de la diplomatie iranienne, de reprendre langue officiellement après la rupture des précédentes négociations en juin dernier à cause de la guerre des 12 jours. Les deux délégations vont maintenant rendre compte dans leurs capitales respectives à Donald Trump pour les Américains, au guide suprême Ali Khamenei pour les Iraniens. L'idée étant désormais de valider le principe de la poursuite des pourparlers et de fixer le calendrier pour de nouveaux pourparlers.
Christian Chéneau, rédaction internationale de Radio France. Son suicide avait ému toute la communauté éducative le 1er septembre dernier. Caroline Grandjean, directrice d'école dans un village du Cantal et harcelée pour son homosexualité, s'était donné la mort le jour de la rentrée scolaire. L'Éducation nationale publie aujourd'hui les conclusions de l'enquête administrative et admet une défaillance institutionnelle dans le soutien apporté à l'enseignante. Noémie Bonin.
L'enquête pointe des décisions administratives vécues comme des injustices. Caroline Grandjean a eu le sentiment que l'éducation nationale n'a pas fait bloc avec elle face au conflit avec certains parents. La directrice avait notamment été visée par des tags homophobes et par une lettre anonyme de menaces de mort dont les auteurs n'ont à ce jour pas été identifiés. L'institution aurait pu faire mieux, reconnaît donc aujourd'hui le ministère de l'Éducation. Il relève par exemple le refus d'attribuer à cette enseignante une bonification de points liée à son handicap qui lui aurait facilité un départ vers un autre poste. Ce bonus a privé Caroline Grandjean d'une forme de reconnaissance et de soutien institutionnel dont elle avait besoin à ce moment-là, détaille le rapport. L'épouse de Caroline Grandjean salue cette reconnaissance de défaillance, mais regrette que les responsables ne soient pas formellement reconnus dans cette enquête. En novembre dernier, elle avait porté plainte pour harcèlement contre l'éducation nationale.
Noémie Bonin, le PNACO, le parquet anticriminalité organisé, se saisit après les menaces visant Amine Kessassi. Le militant anti-narcotrafic a dû être exfiltré d'un meeting à Aix-en-Provence hier auquel il devait participer aux côtés du candidat d'Union de la Gauche dans la ville après une alerte reçue par ses officiers de sécurité. C'est une ardoise estimée à 7 millions d'euros. Ça, c'est ce que doit le BHV à ses fournisseurs alors que les impayés s'accumulent depuis plusieurs mois dans le grand magasin de la rue de Rivoli à Paris. Alors, si les dossiers d'impayés se retrouvent la plupart du temps au tribunal de commerce, eh bien la petite PME française de fleurs séchées, Flora, a décidé de porter l'affaire devant la justice pénale pour escroquerie. Il faut dire que les 30 000 euros d'impayés qui manquent dans sa trésorerie la mettent en grande difficulté. Mais alors, au-delà du BHV, eh bien, les impayés sont en effet en France responsables d'une faillite d'entreprise sur carte. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Julie.
Un sujet suffisamment inquiétant pour faire l'objet d'un projet de loi.
Si le délai de paiement moyen est de plus de 49 jours, bien plus qu'en Allemagne, en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, la France accuse depuis le second semestre 2025 des retards de paiement inédits. Les retards s'allongent et se multiplient à en croire la dernière enquête COFAS, révélant que 9 entreprises sur 10 déplorent des retards de paiement qui mettent à mal leur trésorerie. Le phénomène reste concentré chez les plus grands acteurs. D'après le rapport annuel de l'Observatoire des délais de paiement, plus d'une grande entreprise sur 2 règle ses fournisseurs au-delà du délai légal de 60 jours, ce qui pèse directement sur la trésorerie des entreprises plus petites. Les impayés commerciaux sont estimés à 15 milliards d'euros et 13 milliards d'euros rien que pour les PME, dont 4 milliards pour les micro-entreprises, selon la Banque de France. Soit autant de liquidités perdues ou immobilisées qui freinent le développement, l'investissement, l'emploi et dans 25% des cas mènent à la faillite de l'entreprise.
Et dans le droit actuel, il n'y a pas d'autre solution que de passer par la justice pour obtenir le recouvrement de ces impayés. Mais cela pourrait changer, Annabelle.
Oui, avec l'appui du gouvernement, le Sénat a adopté en première lecture fin janvier un texte pour faciliter la procédure de recouvrement de certains impayés commerciaux. Cette proposition de loi prévoit entre autres une nouvelle procédure simplifiée, plus rapide, sans passer par la case tribunal. Pour les créances dites incontestées, c'est-à-dire celles qui ne font pas l'objet d'un litige, les entreprises pourraient réclamer leur dû en saisissant un commissaire de justice. Le mécanisme aura l'intérêt, selon les sénateurs, de désengorger les tribunaux et d'accélérer le paiement de ces créances. Le projet de loi prévoit également le renforcement des sanctions, notamment pour les grandes entreprises. Aujourd'hui plafonnées à 2 millions d'euros, elles ne sont pas assez dissuasives. Car les retards de paiement chez certains grands groupes relèvent d'une stratégie organisée. Externalisation de la comptabilité dans des pays à bas coût, circulation volontairement ralentie des factures, tout est fait pour retarder les paiements et optimiser les coûts. La pratique pourrait être sanctionnée d'une amende à hauteur d'1% du chiffre d'affaires.
Annabelle Grelier, c'est une étiquette qui est la France insoumise, celle que lui accole le ministère de l'Intérieur dans une circulaire à destination des préfets pour les élections municipales de mars prochain, parti d'extrême gauche. C'est la première fois que le parti de gauche radicale fondé en 2016 se voit attribuer cette nuance politique. Bonsoir Adrien Taufollet.
Bonsoir.
Alors cette décision unilatérale du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, provoque la colère des insoumis. Ils dénoncent une décision politique et ils ont déposé un recours auprès du Conseil d'État.
Oui, alors il faut d'abord préciser que produire ce classement est une nécessité administrative à chaque scrutin, que le ministère de l'Intérieur en est responsable puisqu'il est le garant de la clarté des résultats des élections. La nouvelle classification, donc, n'inscrit plus LFI à gauche, mais à l'extrême gauche, aux côtés de Lutte ouvrière et du nouveau parti anticapitaliste. Un basculement contesté par les insoumis, d'abord d'un point de vue historique et idéologique. Eux ne s'inscrivent pas dans une démarche révolutionnaire, mais jouent le jeu des élections et du parlementarisme. Par ailleurs, notre stratégie et les orientations de notre programme n'ont pas changé ces dernières années, argument les Insoumis, ce que semble contester Laurent Nunez. Selon lui, LFI refuse la discussion parlementaire ou encore fait des appels systématiques à la censure et cela justifie le changement. Les Insoumis dénoncent une décision politique, le ministre se dit dans son rôle et tous ont probablement raison, estime le politologue Rémi Lefebvre.
Ce classement, c'est pas quelque chose de simple, d'organiser l'espace politique en tendance, parce que forcément, c'est un exercice politique. Donc l'État est pris entre des injonctions contradictoires, une forme de nécessité administrative et de nécessité d'objectivité, et en même temps, une grille de lecture qui est nécessairement politique, puisque classer les forces politiques, c'est un exercice politique en soi.
C'est pourquoi la question sera tranchée par le Conseil d'État, qui a déjà été saisi par des partis qui contestaient leur étiquetage politique. La dernière fois, c'était en 2024, un recours perdu par le Rassemblement National, qui cherche depuis le début de sa dédiabolisation à perdre son étiquette d'extrême, un enjeu majeur pour tout parti qui souhaite être perçu comme faisant partie de l'arc républicain, ou y rester dans le cas des LFI.
Adrien Toffolé, 8000 tonnes de pesticides interdits ont été saisies en Europe en 10 ans par les forces de l'ordre. Un trafic lucratif et bien moins risqué pénalement pour ses auteurs que le trafic de drogue, c'est ce que révèle une enquête de la cellule d'investigation de Radio France aujourd'hui. Bonsoir Anne-Laure Barral.
Bonsoir.
Avec Julie Pietri, vous êtes allée sur les traces du plus gros vendeur de pesticides interdits à des agriculteurs en France et il se trouve juste de l'autre côté de la frontière en Espagne.
Oui, il s'agit d'un distributeur dont la société s'appelle Agronaki et que l'on retrouve dans deux dossiers judiciaires, l'un définitivement jugé par la Cour de cassation en 2024 et l'autre audiencé le mois dernier à Marseille. À chaque fois, des maraîchers sont mis en cause pour lui avoir acheté des produits interdits en France mais encore autorisés en Espagne. Tous sont passés par le même intermédiaire, un commercial français à la retraite, Alain Hébrard, condamné dans la première affaire à 6 mois de prison avec sursis.
J'aurais pas dû faire ces choses-là. Je les ai fait pour mes clients, aussi pour sauver l'agriculture française. Voilà. La loi, je pense que quand elle est mal faite, il faut la modifier.
Alors, certaines notes saisies chez ce commercial par les enquêteurs montrent qu'il pouvait toucher des commissions allant jusqu'à 25 000 euros, payées en liquide parfois, et qu'il a même une société dans le paradis fiscal américain du Delaware. Mais les gendarmes ont aussi trouvé des produits contrefaits chez certains exploitants français, donc totalement illégaux et dangereux aussi pour les agriculteurs espagnols. Nous sommes allés à la rencontre d'un des clients de ce distributeur de pesticides catalan, Josep. Il a une exploitation agricole située près de Gérone, en Catalogne.
Je le connais depuis des années, on a beaucoup travaillé avec lui. C'est un mec qui a de l'expérience, il sait très bien de quoi il parle. Il n'a pas de boutique, on échangeait par WhatsApp ou par téléphone, et il livrait à domicile, et voilà. Je sais qu'il vend beaucoup en France, et qu'il a eu des problèmes à cause d'herbicides interdits, mais c'était il y a un paquet d'années, c'est prescrit maintenant.
Alors, contacter la justice espagnole n'a pas souhaité nous donner d'informations sur son casier judiciaire.
Mais les gendarmes français ont eu des informations de la part de leurs homologues espagnols.
Oui, après une demande d'entraide internationale, ils ont reçu ces quelques mots connus pour trafic de stupéfiants en 2011 et 2014, peut-on lire dans le dossier judiciaire. Alors, sans se prononcer sur ce cas précis, le lieutenant Carlos Munoz Carpena, de la police de l'environnement espagnol, estime qu'il n'est pas rare de voir ces deux trafics pesticides et drogue se mêler.
Si tu as déjà une logistique pour acheminer de la drogue, tu peux acheminer des produits phytosanitaires en faisant quelques changements. C'est avantageux. Mais ce qu'on a également détecté, ce sont des entreprises qui ont un volet légal, mais qui commettent aussi des délits. C'est une partie difficile et sophistiquée. Ce n'est pas aussi simple que pour le trafic de drogue où vous savez que tout est illégal.
Alors nous avons évidemment cherché à le joindre plusieurs fois, y compris en allant jusqu'à l'adresse inscrite sur les factures, mais c'était un cul-de-sac dans un quartier résidentiel de Santa Susana en Catalogne. Nous l'avons donc appelé une dernière fois et il ne sait pas qu'il est enregistré.
Ça ne vaut pas la peine, parce que je vais dire du mal des politiques et d'administration catalane, espagnole, etc. Je ne répondrai à aucune de vos questions.
Alors, l'homme préfère rester discret sur ses activités avec les agriculteurs français. Il n'a jamais été entendu par la justice alors qu'il est au cœur du plus gros trafic de pesticides mis à jour dans ces deux affaires. En tout cas, il aurait vendu plus d'une centaine de tonnes de produits interdits en France.
Anne-Laure Barral, votre enquête avec Julie Pietri sur les trafics de pesticides interdits est à retrouver sur l'application Radio France. La météo de votre samedi matin avec des pluies attendues sur le nord-ouest du pays ainsi que sur le littoral landais. Le ciel restera très nuageux de l'Occitanie à la région PACA. Les températures minimales affichent 1 à 6 degrés. C'est la fin de ce journal préparé avec Alison Vicrobeck et Jean-Guilain Meige à la technique.